Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear.
Eh bien, bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans le vinyle 82, 9e volet de la série Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, une petite histoire du groupe The Clash. Dans le dernier épisode, on a vu de fortes tensions au sein du groupe en 1981. Mick Jones devient réfractaire aux tournées, le guitariste, et s'investit de plus en plus sur les séances au studio. Il se sent de plus en plus producteur et a un comportement de diva face au groupe et face à la presse musicale. Topper Eden, le batteur, quant à lui, s'enfonce de plus en plus dans un inextricable problème d'héroïne, ce qui commence à altérer son jeu de batterie et son comportement. Et pour couronner le tout, leur fabuleux triple album Sandinista se fait éreinter par la presse musicale anglaise. Joe Strummer, le chanteur-guitariste, décide de prendre les rênes et il ne veut pas voir sombrer ce groupe auquel ils ont tout donné. Et il a imposé, pour ce faire, le retour du manager Bernie Rhodes aux grandes dames des autres musiciens. Un Bernie Rhodes qui se frotte les mains. Mais un Bernie Rhodes qui va quand même réussir quelques bons coups pour le Clash, comme ses concerts au Bonds de New York qui permet au Clash de conquérir la ville et par ricochet les États-Unis. Mais pour l'heure, Joe Strummer continue à défendre leur triple album Sandinista face à une presse anglaise agressive. The Clash, Living in Frame, extrait de ce superbe album Sandinista.
I'm not
Living in Fame de Clash, extrait de leur fabuleux album Sandinista. Alors, un album considéré par Joe Strummer comme leur plus grande aventure musicale en studio. Un album assez reggae en fait, hein, un des premiers albums considérés comme être un album world music. Un autre extrait de ce fabuleux album, The Street Parade de Clash. Clash, The Street Parade, extrait d'album Sandinista. New York va jouer un rôle essentiel pour l'inspiration de Clash. Ils vont ainsi commencer à se tourner, surtout Mick Jones, vers la funk et le rap. Le rap, ça commence juste hein, au début des années 80. Ils vont bientôt attaquer de nouvelles séances au Electric Studio de New York, le studio de Jimi Hendrix, qui avait monté Jimi Hendrix à l'époque, selon les désirs de Mick Jones. Alors que de son côté, Joe tente de recréer l'ambiance qui leur fut tellement salutaire avant l'enregistrement de London Calling. Autre extrait de ce Sandinista, Up in Heaven.
Stop us around, listen to this.
Vous êtes avec Steph Tej à l'écoute de Vinyle, c'est le vinyle numéro 82, les cavaliers de l'apocalypse, les 4 cavaliers de l'apocalypse, volume 4, et, enfin volume 9 pardon, et consacré à, au groupe The Clash. Donc nous sommes en 1981, d'un côté le groupe défend son album Sandinista sorti en 1981, et d'un autre côté il commence à travailler sur des nouvelles séances studio, mais ça n'est pas facile. Donc comme je disais tout à l'heure, Joe essaie de recréer l'ambiance qu'ils avaient réussi à créer lors de la préparation de l'album London Calling, c'était en 79. Donc Joe invite le groupe à réinvestir le studio de répète Vanilla à Londres, où ils avaient jeté les bases de London Calling entre matchs de foot et répétitions. Joe cherche à ressourcer le groupe avec ses répétitions et les matchs de foot. Mais Mickey Gallagher, le clavier des Blockheads, qui est presque à temps complet, à temps plein avec les Clash depuis quelques temps, depuis London Calling notamment, se casse le bras lors d'une partie de foot, donc plus de clavier pour le prochain album. A rajouter à cela Mick Jones qui pique une crise pour aller enregistrer à New York, où il vient de produire l'album de sa petite amie américaine Hélène Foley, et d'un autre drame qui touche profondément le Clash. Guy Stevens, le fabuleux et déjanté producteur de London Calling, tire sa référence et décède en 1981. Clash lui dédie alors cette chanson, Midnight to Stevens, The Clash. Voilà, très beau morceau dédié à Guy Stevens, leur pote et leur producteur, producteur de l'album London Calling notamment. Donc un morceau très beau, très sensible moi je trouve. Alors on revient à nos Clash, on est en 1981 et Mick Jones gagne en partie la partie. Une partie du nouvel album sera donc enregistrée à New York, ce qui entraîne encore des gros frais de production parce que Clash ils ont leur matériel en Angleterre mais ils l'ont pas à New York. À New York il faut déjà qu'ils y aillent et après il faut qu'ils louent du matériel sur place. Et le studio est relativement cher aussi. Et Clash est déjà surendetté auprès de leur maison de disques CBS. Et pourtant, ils avaient décidé cette fois de faire un album simple, occasionnant moins de dépenses et permettant de rentrer de l'argent pour le groupe, essayer de se sortir un peu de ce cercle vicieux des dettes. Toutefois, ces sessions vont permettre à Clash d'accoucher du fabuleux single « This is Radio Clash » en novembre 1981, faisant pour la première fois de la musique un pont entre punk et funk, entre rock et rap. Une fois de plus, Clash a 10 ans d'avance. « This is Radio Clash » de Clash.
All programs. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Cuban Army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Get a Wallagy as an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. This is Radio Clash tearing up the Seven Veil. This is Radio Clash, please save us, stop the whale. Radio Clash underneath the mushroom cloud. This is Radio Clash. Don't need that funeral shroud.
This is Radio Clash, can we get that world to listen? This is a radio crash on pirate satellites, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. This is a radio crash on pirate satellites. This is radio crash. Everybody hold on tight.
This is Radio Clash, The Clash, Le Clash, vraiment un groupe visionnaire qui mélange déjà rock et rap une bonne dizaine d'années avant que ça se fasse régulièrement, en tout cas de manière plus courante. À travers ce titre et sa démarche, Clash reste un groupe profondément engagé, même s'ils délaissent un petit peu leur côté politique pour plus se consacrer à la musique, mais aussi se raconter, telle cette phase B de Radio Clash, First Night Back to London, dédiée à Monsieur Topper Eden, leur batteur de Clash.
The driver is black, this time I'm not, you better sit in the back. Got a few smokes under your hat, the cops are looking out for the petrol pump. But this time I think, so what the hell, there's that feeling that I know. Why should I let him get up my mind again? I'm riding in the front, a lone stranger ride again. To see my lovely town that always brings you down, where every trip that drifts for many miles around. Miles up the road, the cops pull us over and search right through our clothes. They give him hell, they check him on the air. I sit there with the drugs in my hair. I call Heathrow, what's the standby pair to Borneo?
Voilà, l'année 1980 s'achève pour The Clash qui a comme d'habitude, comme tous les ans depuis 1976, turbiné à donf. Ils ont fait des tas de concerts, ils ont explosé avec ces concerts à New York, au Bonds Casino. Ils ont explosé aux États-Unis et ils ont enregistré l'album qui va devenir Combat Rock. Nous sommes en janvier 1982 et 1982, ça va être un petit peu l'année de tous les dangers pour The Clash. Alors ça commence avec Mick Jones qui propose au groupe l'album Rat Patrol from For Drag. Il s'agit d'un double album qu'il a produit en partant du matériel enregistré à New York et à Londres en 1981. Le groupe et la maison de disques refusent catégoriquement ce travail de Mick Jones et celui-ci est très très en colère. Alors cette première mouture de Combat Rock, de cet album qui va devenir Combat Rock et que Mick Jones présente sous le titre Rat Patrol from Fort Drag. Donc contient évidemment les morceaux qui vont se retrouver sur l'album Combat Rock plus d'autres morceaux. Alors c'est une version un peu surmixée. C'est un peu ce qu'on va reprocher à ce disque de Mick Jones qui produit et qui produit peut-être un petit peu trop. Ils font des choses super et c'est entassé sous des tonnes de reverb et tout ça. Mais quand même, c'est un album qui est intéressant. On va écouter un extrait de cet album, un extrait qui ne va pas se trouver, un morceau qui ne va pas se retrouver sur la version de Combat Rock, qui sera un simple album, mais sur la version double de cet album de Mick Jones, avec un mix de Mick Jones, un morceau qui s'appelle Kill Time, The Clash, Kill Time 1982.
You sold your time, but I still got mine. I'm from the
Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de Vinyle avec Steph Tej et on est dans le vinyle numéro 82, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, volume 9, et qui parle du groupe de Clash. On vient de quitter l'année 1980 et d'arriver en 1982. Donc Mick Jones propose un double album fait avec le matériel enregistré en 81 qui est refusé par tout le monde, la maison de disques et le groupe. Donc malgré sa colère, la colère de Mick Jones, le groupe s'embarque début 82 pour une immense tournée, notamment en Asie, Thaïlande, Hong Kong, Japon, Nouvelle-Zélande et Australie, où Clash est accueilli à bras ouverts. Alors face à un Mick Jones qui fait la gueule suite au refus de sa production et un Topper Hedon de plus en plus héroïnomane, Joe prend vraiment les choses en main et à cœur. Il assure les conférences de presse, reste très proche des fans, se couche très tard et se lève très tôt pour parcourir les villes qui les accueillent tout en prenant des notes. Un travail titanesque qui aura raison de lui puisqu'il finira par s'évanouir lors d'un des derniers concerts. De retour à Londres après ce long mois de tournée agrémenté de quelques séances studio, la maison de disques et le management Clash cherchent à remixer le nouvel album en faisant de plus un simple album et non un double. Il est alors décidé de se retourner vers un producteur ayant de la bouteille et Clash se tourne vers Glyn Johns. Producteur élégant ayant déjà œuvré pour les Beatles et Rolling Stone, Eric Clapton et beaucoup d'autres. Par contre, Glyn Johns, il n'est pas du tout branché sur le punk rock. En fait, Glyn Johns, c'est pas compliqué. Il s'implique dans un album à fond. Il n'écoute pas du tout ce qui se passe autour. Donc, il a vaguement entendu parler du punk rock. Il n'était pas sûr de se lancer dans l'affaire. Hein. On l'appelle un peu pour réarranger un petit peu le tout. Il écoute les bandes et tout ça, il trouve qu'il y a des bons titres mais qu'effectivement c'est surproduit, et c'est Joe Strummer, il finit par accepter le boulot, et c'est Joe Strummer qui va accompagner Glyn Johns dans le mixage de l'album qui va devenir Combat Rock. L'entente entre les deux hommes est excellente face à un Joe Strummer au bord de l'épuisement. Joe se retrouve à régler des problèmes d'ego avec Mick, de drogue avec Topper, et il est sur les rotules. Glyn Johns va lui amener un peu d'apaisement, mais aussi un superbe mixage. Glyn, ayant entendu les mixages de Mick, et avait compris que l'album était surmixé, surproduit, alors que les prises de son étaient fabuleuses, notamment les guitares de Mick Jones, la voix de Joe, la batterie de Topper. Et le tout se retrouvait enfoui sous des piles de réverb et d'effets. Glyn Johns décide donc d'aller à l'essentiel, sélectionnant d'abord les titres à mixer avec Joe et en allant mettre en avant les prises de chaque musicien. Ce qui va donner cet extraordinaire Combat Rock, dont le premier single va sortir le 14 mai 1982 en Angleterre. No, You're Right, The Clash, extrait de Combat Rock.
A public service announcement with guitar. Know your rights. Oh, three of them. Number one, you have the right not to be killed. Murder is a crime.
The Clash, Know Your Right, premier single extrait de l'album Combat Rock, single qui sort le 14 mai 1982. Mais revenons un mois plus tôt, en avril 1982. Joe a fini les mixages avec Glyn Johns de l'album Combat Rock et la maison de disques est contente. C'est un simple album et non pas un double ou un triple au prix d'un. Et Clash prépare un Know Your Right Tour en Angleterre. Mais les tensions restent vives au sein du groupe. Mick Jones est passé une fois au studio lors des mixages et s'est engueulé avec Glyn Johns. Il est resté quoi, une demi-heure, et ça n'a pas marché du tout entre eux. Et il n'aime pas le disque. Topper, lui, ne cesse de sombrer dans la cam et la presse anglaise reste hostile au groupe. Et les billets de la tournée ne s'envolent pas. Après, il s'agit de prévente et le public de Clash, c'est plutôt un public qui prend sa place au concert directement. C'est pas le genre de public à réserver. Alors que Joe est en plein questionnement, Bernie va avoir encore une idée fumeuse. N'oublions pas que l'ami Bernie a été à l'école Malcolm McLaren. Fumeux manager des Sex Pistols, Bernie dit qu'il faut faire le buzz et propose à Joe de disparaître pour faire le buzz. Et ça, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd parce que Joe, il commence à en avoir un peu ras-le-bol des guitaristes diva, des batteurs toxicaux, des maisons de disques récalcitrantes, de la presse dédaigneuse et des managers foireux. Et Joe disparaît pour de vrai. Should I stay or should I go?
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, you come in.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Split. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know, should I stay or should I go?
Should I Stay or Should I Go, autre morceau de cet album Combat Rock remixé par Glyn Johns. Alors même s'il a vraiment disparu, Joe n'est pas bien loin. Il est à Paris, il se planque. Bernie se retrouve un peu comme un con, hein, car son stratagème a marché, la disparition de Joe fait le buzz. Par contre, il ne sait pas où est Joe. Alors que l'album Combat Rock sort en Angleterre, puis aux États-Unis, Cosmo Vinyl, attaché de presse, retrouve Joe et le ramène au bercail. Le groupe s'apprête à partir en tournée aux États-Unis puis en Angleterre, mais Joe réclame le remplacement de Topper Eden tant que celui-ci n'aura pas réglé ses problèmes de drogue. Terry Chimes, batteur des débuts et batteur du premier album, réintègre le groupe. C'est donc un nouveau clash qui prend la route en juin 1982 et qui va défendre un fabuleux album ce titre Rock de Casbah, dont la musique a été écrite par un Topper Eden qui tente de sortir de la drogue tout en voyant du fond de son appartement en pourri le clip de Rock the Casbah avec un autre batteur. Malgré toutes ces galères, le groupe est en train de décoller pour de bon. Leur maison de disques aimerait les hisser dans la catégorie des poids lourds type Springsteen ou Queen en termes de vente. Pas de répertoire. Rock the Casbah, The Clash.
The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was a standing on the radiator grill.
Fundamentally can't take it.
Rock, Casbah, rock.
Rock the Casbah du Clash, dont le clip va être sur tous les écrans MTV aux États-Unis et en Europe et un petit peu partout dans le monde. Alors la photographe, on est en 1982, la photographe Penny Smith, à qui l'on doit la photo de la pochette de London Calling et celle de Combat Rock, et qui suit le groupe depuis ses débuts, estime que le Clash s'est dissous devant elle durant les séances de photos pour la pochette de Combat Rock, justement début 82. Donc ça se passe en Asie, je crois que c'est du côté de Bangkok. Il y a encore Topper dans le groupe sur cette tournée là. Mais depuis le départ de ce dernier, de Topper Addon, le groupe n'a cessé de tourner. États-Unis, Angleterre, Jamaïque, Europe. Ils font des salles de plus en plus grandes et Combat Rock se vend bien. Pourtant, le groupe estime que depuis le départ de Topper, il n'a pas fait de concert aussi bon avec le nouveau batteur. La tension est toujours vive entre Mick Jones et Paul Simonon, chanteur, guitariste et bassiste, tous deux à l'origine du groupe. Leur relation s'est détériorée et Joe se retrouve à être médiateur entre les deux hommes, tout en gérant les rumeurs de Mick, notamment concernant les tournées. Mick en a marre des tournées à répétition, alors que pour Joe, le groupe commence vraiment à percer avec Combat Rock. Ils ont remboursé leurs dettes envers CBS. Pour Joe et Paul, c'est donc maintenant ou jamais qu'il faut prendre la route et aller défendre ce disque et aller défendre ce groupe. Même la presse musicale anglaise, qui les démonte depuis quelques mois, recommence à les encenser. Ça, c'est quand même bien. Autre extrait de ce Combat Rock, Shane Flynn, The Clash. Temps de nous quitter. On se retrouve bientôt pour la suite de cette fabuleuse histoire de The Clash. Prenez soin de vous, portez-vous bien, à très vite. Je vous laisse avec les Clash, Shane Flynn, extrait de l'album Combat Rock.